Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Cet entretien est préparé avec Corinne Amar, Jeanne Aléos, Camille Ferret. Il est réalisé par Milena Helling, avec à la technique ce soir, Régis Nicolas.
Par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre.
Ce soir, avec Mariana Otero. Ce soir, on ne rentre pas chez nous. Le 31 mars 2016, un groupe de personnes se réunit place de la République à Paris après une manifestation contre la loi travail portée à l'époque par Myriam El Khomri. Ils se proposent, entre autres, d'arrêter le temps. Le 1er avril devient le 32 mars, le mouvement Nuit Debout est lancé. Pendant 3 mois, la place est occupée. Des commissions s'organisent pour discuter et refonder la politique en cours. Des débats sont ouverts, des actions sont lancées avec plusieurs mots d'ordre, notamment la devenue fameuse convergence des luttes. Tour à tour, agora, plateforme, radio, Nuit Debout aura ouvert un espace politique et éphémère sur les places publiques. Mariana Otero, votre documentaire L'Assemblée, revient sur ce mouvement en faisant le choix de montrer la place de la parole. Il sort sur les écrans ce mercredi 18 octobre. Bonsoir et merci d'être là.
On est là vraiment pour parler de la modération, donc on essaie de pas trop se disperser.
Ouais.
Pour Donc, le modérateur, donc son boulot, c'est au début de l'Assemblée Générale de présenter l'ordre du jour. De quoi on va parler ? Ensuite, de présenter les règles de l'Assemblée Générale. Ensuite, renvoyer éventuellement les journalistes qui viennent vous tirer par la manche toutes les 3 minutes, leur dire de plutôt aller voir le facilitateur qui va donc du coup prendre ce rôle en charge. Et voilà, essayer de simplifier, de synthétiser un petit peu ce qui se dit dans l'Assemblée.
Mariana Otero, c'est un premier extrait de l'Assemblée qu'on entend. On est dans la Commission démocratie, ce qui s'est appelé donc la Commission démocratie, une fois que Nuit Debout, le mouvement a été lancé. Comment est-ce que vous arrivez sur la place de la République ?
Alors moi, je suis arrivée au tout début, c'est-à-dire un mois avant le 31 mars. Ruffin et puis d'autres intellectuels avaient appelé à une grande réunion à la Bourse du Travail pour essayer de voir comment on pourrait faire... contre la loi El Khomri, pour que ce soit pas juste des manifestations. Et tous ensemble, on avait décidé donc qu'on ne rentrerait pas chez nous après la manifestation du 31 mars. Donc moi, j'étais là. Et puis ensuite, il y a eu d'autres réunions où on s'est organisé en commission. Moi, je suis rentrée dans la commission communication en disant bien que j'étais cinéaste, mais que cette fois-ci, je ne filmerais pas. Je venais de finir l'écriture, en fait, d'un autre projet. Et donc, j'avais du temps et je voulais militer. Et je rentrais dans cette commission pour tracter, pour dire dans le métro qu'il y avait cette assemblée le 31 mars. Donc, j'étais là le 31 mars. Je suis retournée le 32 mars. Et là, j'ai trouvé ça tellement émouvant, tellement fort ce qui se passait sur cette place, que j'ai pas résisté à prendre une caméra et à commencer à filmer. Alors au départ, je filmais un peu des petites scènes que je mettais sur YouTube, sur une chaîne que j'avais appelée Les yeux de Marianne. C'était des petites scénettes de ci de là, j'allais dans une commission, une action, une violence policière, enfin voilà, des choses comme ça. Mais très vite, en fait, au bout de 10 jours, je me suis dit que ça, c'était un peu ce que faisaient les médias au fond, c'est-à-dire filmer un peu le côté festif, le côté un peu folklorique, le côté ou violent, parce que ça, ils aiment bien les médias, c'est un peu spectaculaire. Et très vite, je me suis dit que c'était pas ça qui était intéressant. Au fond, sur cette place, ce qui était intéressant, c'était le travail. C'était que des gens revenaient tous les jours et se mettaient au travail pour essayer de réfléchir à plein de choses, que ce soit la démocratie, que ce soit l'économie, plein de thèmes, le climat, l'écologie, etc. Et donc là, je me suis dit, il faut donner du temps au temps, il faut vraiment que je fasse un film. C'est comme ça que j'ai décidé de m'investir totalement dans un tournage, sans argent, sans financement, sans rien. Mais je pensais que c'était important. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un événement historique et qu'il fallait que moi, comme cinéaste, j'en fasse le récit. Alors, ça touchait à quelque chose qui, évidemment, moi, m'importe beaucoup, c'est le collectif. Et à partir de là, j'ai décidé de choisir un angle, parce que je pouvais pas filmer tout, quoi. C'était un vrai village, quoi, avec des milliers de choses. Et donc, j'ai choisi l'Assemblée, c'est-à-dire ce lieu de parole, parce que c'est quand même ça aussi qui m'intéresse, c'est comment reprendre la parole, et la commission qui avait en charge le fonctionnement de cette Assemblée, c'est-à-dire la commission démocratie sur la place.
Ouais. Oui, parce que d'un côté, donc, il y avait les commissions qui étaient des organes un peu autonomes et qui fonctionnaient sur des thèmes précis, notamment sur les actions à mener, la question des médias, et ce moment, qui est le moment de l'Assemblée Générale, où tout le monde est rassemblé et discute collectivement et prenne des décisions, et notamment passe par la question du vote. On y reviendra plus tard. Mais vous, comment vous avez circulé entre justement cet espace qui est l'espace de la commission, donc majoritairement vous la commission démocratie, et l'Assemblée Générale ?
En fait, je m'inscrivais vraiment avec cette commission. C'est-à-dire que cette commission, elle se réunissait à 16 heures pour à la fois trouver des modérateurs, parce que c'est très compliqué, hein, très compliqué d'organiser une assemblée. Des milliers de personnes sur une place qui viennent de partout, on sait pas, enfin voilà, c'est des gens qui connaissent pas forcément les règles qui ont été mises en place la veille, etc. Donc il faut tout réorganiser, et puis ils voulaient que les rôles tournent, donc il fallait trouver des modérateurs, enfin c'est ce qu'on entend dans la dans le petit extrait, donc des preneurs de son, des preneurs de nom, enfin bon, il y avait tout un travail, donc et puis en plus il y avait la réflexion sur justement comment à la fois mieux faire circuler la parole, et puis comment à partir de ces paroles singulières essayer de construire quelque chose de collectif. Donc ça, c'était une réflexion qui se menait de jour en jour, très animée, complexe. Hein. Surtout que plus il y avait de commissions, plus il fallait donner la parole. Enfin voilà, il y avait tout un travail compliqué. Et moi, en fait, j'allais avec eux quand ils allaient justement faire fonctionner cette assemblée, la modérer. Je les suivais et donc voilà, je circulais en fait avec eux. J'ai vraiment choisi un angle très précis. Le film, c'est pas le best-of de Nuit Debout. C'est pas tout de Nuit Debout, c'est vraiment le autour de cette assemblée qui quelque part reprend, voilà, c'est une agora, ça pourrait être il y a 2000 ans, c'est comment on va faire tous ensemble.
Et vous diriez que c'est la chose qui vous a le plus saisi dans ce mouvement Nuit Debout, ce mouvement de l'assemblée?
Oui, parce que moi, c'est ce qui me semblait le plus inédit, en fait. Parce que les autres commissions, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, elles fonctionnaient au point de vue de la prise de parole, de décision, etc. Un peu comme l'Assemblée, d'une certaine façon. Mais ce que je trouvais vraiment inédit, c'était que, au fond, c'est de créer un espace politique. Parce que la place de la République est devenue un véritable espace politique. Et un espace de parole politique, c'est-à-dire où les citoyens, finalement, avaient l'occasion de se réemparer d'une parole politique qu'on leur a ôtée depuis deux siècles, on va dire. C'est-à-dire que, au fond, les citoyens, comme citoyens, on n'a pas vraiment l'occasion de s'exprimer. C'est pas tellement à l'école qu'on va le faire. Bon, on a des cours d'éducation civique, mais enfin, c'est pas vraiment là où on apprend à s'exprimer. Au travail, on peut pas vraiment s'exprimer non plus, c'est de moins en moins. Et puis, comme citoyen, on fait que voter, et c'est pas vraiment un lieu d'expression de parole politique, quoi. Le vote, c'est juste un bout de papier, quoi. Et sur cette place, à travers cette assemblée, il y avait vraiment là un exercice de démocratie et de réappropriation de la parole politique.
On entendait aussi dans l'extrait, il y a une méfiance envers les journalistes. L'idée qu'il y a les journalistes qui vont passer, qui vont tenir la manche, etc. Vous arrivez avec votre caméra et vous dites « je suis cinéaste ». Est-ce que ça a pu poser un problème? Est-ce qu'il y a eu un doute?
Alors ça, c'était pas simple. Hein. Moi, je dois dire que voilà, moi, ce film, ça m'a vraiment brusqué. Hein. J'ai fait tout à l'envers de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire, d'habitude, je repère, j'écris, j'ai une relation avec les gens que je vais filmer, on réfléchit ensemble, les gens donnent leur accord en ayant connaissance du projet global. Enfin, là, c'était tout à fait le contraire. C'est-à-dire, j'arrive, je sais pas du tout ce qui va se passer, j'ai absolument pas le temps de parler aux gens que je vais filmer. En fait, j'arrive avec plein d'autres caméras, effectivement. Les médias, ils les aimaient pas, parce que les gros médias, hein, je veux pas, voilà, pas les petits médias alternatifs, etc. Mais ceux qui, en fait, ne montraient ou ne pointaient du doigt que les petites polémiques, les petits incidents, etc., ils avaient une grande méfiance. Ceux qui voulaient absolument qu'il y ait des représentants. Parce que ce qui était quand même formidable, là, c'est qu'il n'y avait pas de représentants, pas de chefs. C'est aussi ça qui était très beau. C'est-à-dire, c'était une assemblée où, finalement, chacun, tout le monde est, il y a une horizontalité absolue. Il n'y a pas de personne qui a plus d'importance que l'autre. Et donc, ça, c'était vraiment très, très nouveau. Et les médias, ils étaient un peu désemparés face à ça. Ils voulaient absolument sortir quelqu'un. Voilà. Moi, j'ai essayé de respecter totalement l'organisation de Nuit Debout. Et donc, je rentrais dans les commissions un peu. C'est un espace très ouvert, au fond. Hein. Et j'étais un regard supplémentaire qui venait filmer ce qui se passait. Alors souvent, ce qui se passait, c'est qu'ils demandaient « Vous êtes qui ?» Alors, on avait 30 secondes hein, parce que pour répondre très vite. Et puis en fait, comme je revenais tous les jours, ils m'avaient repéré et c'était souvent des gens qui disaient non mais elle, il y a pas de problème, on sait qui c'est quoi. Et voilà, c'était donc j'ai été assez vite intégrée. Ceci dit, comme il y avait toujours des nouveaux qui passaient, j'avais fini par m'accrocher un petit tissu. Enfin moi et l'ingénieur du son, on avait un petit tissu derrière notre dos où c'était écrit nous ne sommes pas les médias, mais cinéastes.
Et la commission communication dont vous faisiez partie, vous en faisiez plus partie à ce moment-là?
Ah non, là, à ce moment-là, j'avais quitté... voilà, en fait, la commission communication, je n'en ai fait partie que... avant de prendre la caméra, en fait. C'est ça qui peut paraître paradoxal. Mais à partir du moment où j'ai pris la caméra, mon but, ça a été vraiment, enfin très vite, de raconter, de suivre le fil, en fait, de cette parole.
Donc, la question sur laquelle nous allons voter est la question de savoir si ce soir, c'est un sondage. Levez la main pour savoir ceux qui veulent voter. Pas, je dis encore une fois, pas pour le sondage, c'est pour savoir combien de gens veulent voter là-dessus. Et après, je vous dirai que tous ceux qui sont pour le sondage vont baisser la main, on n'aura que ceux qui sont contre qui gardent la main debout, ok? Voilà, on va faire plus simple. Qui est...
Je voudrais juste rappeler que le modérateur est une personne comme vous et moi, donc c'est pas évident là de gérer ce moment visiblement du vote. Donc je vous demande un petit peu d'indulgence. Donc là visiblement on cherche ensemble comment faire. On va trouver une solution, je pense.
Mariana Otero, c'est un deuxième extrait de votre film L'Assemblée qu'on entend. Est-ce que vous aviez dès le début l'intuition de faire un film sur la parole ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris?
Non, j'avais dès le début l'intuition de faire. Enfin, c'est ça qui m'a plu quoi dans cette assemblée. C'était parce que la parole, c'est vraiment quelque chose moi qui me. Enfin, le collectif et la parole. Au fond, ce qui m'intéresse moi, qui parcourt un peu tous mes films, hein, c'est quelle place le collectif donne à la singularité, comment elle accueille ou pas la singularité. Et l'assemblée, c'était vraiment cette question-là, c'est-à-dire comment laisser à chacun la place pour s'exprimer. Et la parole, ça, bon, que ce soit Histoire d'un secret, alors la parole et le silence, hein, parce que je suis pas quelqu'un qui pense qu'il faut absolument parler à tout prix, hein, le silence peut être très important. Je sais pas, par exemple, au Courtil, quand j'ai filmé Le Courtil, c'est une institution pour enfants psychotiques dans Un ciel ouvert. Des fois, il faut couper la parole de ces enfants parce que c'est du délire, en fait. Donc, parler, c'est pas la panacée pour moi. Mais comment on arrive à redonner la parole, comment le sujet peut se réapproprier sa parole et comment là, le citoyen peut se réapproprier sa parole politique, d'emblée, oui, c'est ça qui m'a intéressé.
Et on voit aussi toutes les instances qui permettent de donner la parole. Il y a la question des modérateurs, donc qui modèrent les assemblées, les facilitateurs. Comment vous avez vu, est-ce que ça vous a surpris aussi, cette place des instances qui donnent la parole, qui la transmettent?
Oui, parce que je pense que, enfin, ça m'a surpris et j'ai surtout été très admirative en fait, parce que au fond, s'il n'y a pas ce cadre, ce serait pas justement un espace politique et il n'y aurait pas de la possibilité que la parole s'exprime. S'il y a la parole, c'est parce qu'il y a l'écoute et les modérateurs, les preneurs de nom, les signes aussi, parce que voilà, c'est devenu un peu folklorique, les signes, tout le monde rigolait, etc. Mais il y a une vraie utilité, c'est-à-dire que effectivement, le fait de ne pas applaudir, c'est une manière de ne pas héroïser celui qui parle, c'est une manière de pas interrompre l'écoute et aussi celui qui est en train de parler par des applaudissements, quoi. Il y a vraiment une façon d'établir une écoute qui permet que la parole s'exprime. Si je prends un parallèle, c'est comme aller chez le psy. Enfin, ça n'a rien à voir parce que je pense pas du tout que c'était thérapeutique. C'est pas là-dessus que je veux faire le parallèle. Mais le fait d'aller chez le psychanalyste, c'est un cadre. Il y a un cadre aussi, et le cadre est extrêmement important. Sinon, ça n'est pas efficace. Et bien là, c'est pareil. Cette assemblée, si elle n'avait pas de cadre, la parole politique, le sujet politique pourrait pas advenir.
Vous pensez que la parole ne peut pas fonctionner sans cadre?
Oui, pour faire surgir, oui, c'est ça, oui, d'une certaine façon, on pourrait le dire même d'un point de vue cinématographique. C'est-à-dire, dans tous mes films, j'essaie de donner la mise en scène, la mise en cadre, permet pour moi de faire advenir une parole qui est plus grande que le sujet même, qui le dépasse. Et je pense que ce qui était beau sur cette place, c'est qu'au fond, les gens qui parlaient, ils papotaient pas, quoi. C'était, ils advenaient à quelque chose d'eux qui était plus qu'eux, qui était ce sujet politique.
Et on voit aussi donc la question de est-ce que c'est un vote, est-ce que c'est un sondage. Il y a la question du vote aussi, qui est beaucoup liée à cette question de la parole. D'ailleurs, comment vous faites le lien, vous, entre la question de la parole et la question du vote?
Alors, parce que voilà, Nuit Debout a été un peu tiraillée, je pense, tout du long, en tout cas l'Assemblée, hein, mais on pourrait dire les actions aussi, mais bon, ça serait un peu long à venir là-dessus, mais était tiraillée entre deux choses, c'est-à-dire qu'à la fois, je pense que l'Assemblée, c'était un lieu de parole, mais en même temps, ils avaient envie de prendre des décisions. C'est-à-dire, à partir de ces paroles singulières, ils avaient quand même envie de construire quelque chose d'efficace et quelque chose de collectif. Quelque chose qui aurait à voir avec un programme ou une esquisse de programme. Et en même temps, ils n'avaient pas envie. Parce que décider, c'est diviser. Et ils ne voulaient pas diviser. Ils voulaient que cette assemblée, tout le monde puisse venir. Mais si on commence à voter, qu'on est pour ça et contre ça, forcément, ceux qui sont contre vont partir. Donc il y avait une espèce de tension, hein, qui n'a jamais été absolument résolue. Enfin, d'une certaine façon, si, je pense que, et c'est un peu le sens du film, hein, mais c'est un peu ce que j'ai compris finalement de Nuit Debout, c'est qu'au fond, ce qui comptait vraiment, c'était reprendre la parole et peut-être pas tant de décider.
C'était un geste initial.
Voilà, absolument.
Et qu'est-ce que vous diriez, oui, justement, quand on entend dans l'extrait, donc la question des mises en forme et des procédures qui permettent de prendre la parole, est-ce que vous diriez que c'est aussi ça qui, d'une certaine manière, a asséché le mouvement ? Les procédures de prise de décision, de discussion, et qui rentraient dans une forme, finalement, de bureaucratie ?
Oui, je pense pas que ça ait asséché le mouvement. Je pense que c'est cette indécision sur le fait de est-ce qu'on est là pour un espace politique où les citoyens vont discuter entre eux de sujets qui les concernent en premier lieu, ou est-ce qu'on est là pour décider. C'est cette tension là qui les a asséchés, parce qu'en fait ils n'arrivaient pas à choisir entre l'un ou l'autre. Enfin, je pense. Et puis ce qui a beaucoup asséché quand même le mouvement, c'est à la fois les violences policières, les tracasseries policières tout le temps, y compris absurdes, on voit bien dans le film, quand les CRS empêchent de faire rentrer la sono, c'est la violence policière dans les manifestations, parce que tous ceux qui étaient sur la place allaient aussi aux manifestations, donc c'était quand même épuisant, très violent, très fatigant. La météo qui a été quand même de droite, comme dit quelqu'un, il pleuvait tout le temps, il faisait froid, les gens étaient assis par terre, il y avait un vent terrible, c'était dur. Et puis la répression, le 49-3, je dirais, c'est-à-dire ce déni de démocratie qui entourait cette place qui essayait d'inventer la démocratie, de réinventer d'une certaine façon des modalités démocratiques, ça a beaucoup asséché le mouvement. C'était épuisant, quoi. Il y avait une fatigue physique, une fatigue des corps, quoi, qui a aussi contribué à ça. Et puis, c'est vrai qu'une fois que le 49-3 est tombé, qu'on a senti que la loi El Khomri, de toute façon, elle allait passer, ça a énormément démotivé les gens qui étaient là. Il y avait un moment donné où on avait pris un sacré coup sur la tête, quoi.
Et à aucun moment vous avez eu l'envie, vous, en tant que documentariste, de poser des questions aux gens qui étaient sur la place et de les filmer ?
Comme ça, en entretien direct ?
Oui.
Non, alors, pour plusieurs choses. D'abord parce que je crois qu'ils n'avaient absolument pas envie de ça. C'est-à-dire que ça, c'est les médias font comme ça et ça les énervait beaucoup. Parce que justement, là, du coup, il fallait qu'ils parlent au nom de Nuit Debout et puis parler en leur nom, comme ça, de ce qu'ils vivaient, ça ne les intéressait pas, en fait. Donc... au nom de Nuit Debout, c'est impossible, parce que pour eux, c'était très clair qu'il n'y avait pas de représentant de Nuit Debout, puis qu'on n'allait pas définir ce que était Nuit Debout. Donc, ils ne pouvaient pas parler au nom de Nuit Debout. Et parler de manière un peu psychologique, eux, ce qu'ils ressentaient et tout, ça leur semblait pas adéquat non plus. C'était pas ça le mode d'être à Nuit Debout, quoi. Donc, j'ai pas du tout eu envie de... D'ailleurs, je fais en fait jamais ça dans mes films. Je crée toujours des scènes. Même quand je fais parler les gens en tête à tête, par exemple dans Histoire d'un secret, qui est c'est avec ma famille, je fais en sorte de créer des scènes où la parole surgit, mais jamais dans un tête à tête, jamais.
C'est toujours, vous êtes toujours spectatrice de la parole.
Non, mais je pense qu'il faut c'est pas spectatrice, mais c'est qu'il faut créer le cadre, justement. Le cadre qui va faire permettre de surgir la parole. Et je pense que sur la place, interroger comme ça, c'était pas le bon cadre. C'était vraiment plutôt de filmer cette assemblée, la manière dont elle faisait surgir la parole.
Alors voyons, où en sommes-nous ? On ne compte plus les villes de province qui ont une nuit debout. Et la plaine européenne est en train de s'embraser également. Barcelone, Madrid, Saragosse, Murcie, Bruxelles, Liège, Berlin. La place de la République elle-même s'est donnée une antenne à Stalingrad. À tout moment, des actions surprises naissent spontanément. Il y a une radio debout, une télé debout, des dessins debout. Tout est en train de se remettre debout. Il y a 10 jours, le conditionnel était de rigueur et nous pouvions seulement dire « Il se pourrait que nous soyons en train de faire quelque chose ». Je crois qu'on peut maintenant abandonner les prudences grammaticales. Nous sommes en train de faire quelque chose. Enfin, quelque chose se passe.
Mariana Otero, on entend ici la voix de Frédéric Lordon. Alors la date, c'est donc le 40 mars. C'est pas extrait de votre documentaire, c'était une vidéo, donc il a été filmé à la tribune. Et on l'entend, donc au moment où le mouvement a vraiment pris, parler de toutes les nuits debout qui se multiplient. Vous, votre film prend le parti pris assez fort de rester sur la place. Comment est-ce que vous avez pu constater des connexions avec... comment la place était connectée avec l'extérieur ?
Je pense que par réseau, c'est-à-dire par Facebook, par tous les moyens qui existent, actuels de il y avait aussi des gens qui venaient, c'est-à-dire des Toulousains qui venaient à Paris, des Parisiens qui allaient à Toulouse, ou des gens qui venaient de plus petits villages. Enfin, il y avait comme ça des interconnexions physiques, on va dire. et le Périscope, enfin ça c'est voilà. Donc effectivement il y avait ça existait. Bon, c'est pas du tout ce qui m'a intéressé. Moi je suis vraiment restée sur le côté physique de la place de République.
Vous avez fait le choix, oui, de rester sur la place. Qu'est-ce que ça vous a apporté de rester comme ça si longtemps dans un même lieu?
Bah, ça me permettait de vraiment comprendre le cheminement, les répétitions, hein, les impasses, les difficultés, les questions, et c'était important parce qu'on pouvait pas être juste dans le côté c'est formidable, voilà le début c'est formidable et après on fait quoi? C'est moi ce qui m'intéresse, c'est le pas qui suit et toutes les questions que ça pose. Et au fond, en restant là, ça me permettait de comprendre ces questions. C'est-à-dire, si je venais pas, m'est arrivé parfois de pas pouvoir venir une journée pour une raison médicale ou enfin autre chose, voilà. C'était embêtant parce que j'avais l'impression de, je ne savais plus en fait ça, je pouvais plus reconnaître si les questions qui se posaient, d'où elles venaient, quoi. Il fallait que je suive, même si je filmais pas systématiquement, mais il fallait que je puisse suivre le cheminement pour comprendre ce qui était en train de se passer.
Et vous avez eu le sentiment de voir le cheminement d'une réflexion collective?
Oui, le cheminement de la difficulté d'une réflexion collective, c'est vraiment tout. Enfin, c'était très compliqué, hein, parce que il y avait toujours des gens nouveaux, il y avait et puis il y avait cette hésitation en fait de décider ou pas décider. Donc à la fois il y avait tout ce processus de vote qu'ils ont essayé de mettre en place pour que les votes soient plus, par exemple, hein, soient plus légitimes. Et en même temps, à partir du moment où ça a exclué, ils l'ont abandonné. Enfin, vous voyez, ça avançait, ça reculait. Il y a quelque chose qui, dans la parole, malgré tout, n'arrive pas à se résoudre. Il y a quelque chose qui résiste d'une certaine façon.
On entend assez peu, finalement, aussi, dans votre documentaire, des gens qui sont à la tribune et qui évoquent ce qui pouvait avoir lieu, des choses, des luttes précises. Par exemple, il y avait, je sais pas, on entend, si à un moment, quelqu'un qui parle de l'écologie, mais on ne la voit pas, elle est en fond sonore, est-ce que ça relève d'un choix, ça, de pas avoir fait entendre la multiplicité des discours, tout le contenu, finalement, que Nuit Debout proposait?
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que quand même, j'ai fait attention dans le montage, en fait, à avoir, malgré tout, comme vous l'avez, cette scène dont vous parlez, par exemple, où là, il y a quelqu'un qui parle de la commission climat, et où effectivement, je reste très longtemps sur l'écoute, parce que je trouvais ça beau de voir comment, en fait, elle égrène, en fait, des mesures, des décisions qu'ils ont prises, des voies vers lesquelles ils veulent aller à la commission climat. Et j'aimais bien voir comment les gens, justement, lèvent les bras pour dire qu'ils sont plus ou moins d'accord. Enfin, c'est comme une mer, un peu, avec des vagues, comme ça, qui se... Voilà. Et j'ai essayé, quand même, dans le film, de faire en sorte que, dégrainer, comme ça, quand même, des choses qui étaient importantes. Par exemple, la prise de position sur la violence, violence ou non-violence. Le climat, les actions, elles sont évoquées quand même, elles sont évoquées par rapport à, justement, dans le communiqué sur la violence, ou elles sont, ou même à la fin, c'est redit de façon très claire que c'était aussi ça le but de l'Assemblée.
Mais la question de la violence a été vraiment une question, enfin, centrale sur Nuit Debout.
Absolument. La commission migrants aussi, la commission langue des signes. Qui était très importante, avec les sourds et malentendants, elle est évoquée. Enfin voilà, j'ai essayé quand même de, ou bien par des panneaux, commission logistique. Enfin voilà, c'est vrai que je rentrais dans une. J'ai essayé au montage. Hein, je vous cache pas que j'ai essayé de parallèlement en fait à ce fil que j'étais en train de tirer, d'aller faire comme ça des petites embardées de côté, etc. Mais en fait ça marchait pas du tout, parce qu'à partir du moment où on rentrait dans une commission, par exemple, je sais pas, la commission économie, on s'y intéressait, puis on n'avait plus envie d'en partir. C'est-à-dire qu'on peut pas aller comme ça, ça se construit, enfin, c'est un film, quoi. Il faut quand même construire quelque chose, quoi, et faut aller au bout du récit. Le personnage principal ici, c'est la parole, c'est aussi d'une certaine manière la démocratie, comment reprendre le pouvoir, et il faut que je suive ce fil et que je le tienne, parce que dès qu'on le lâche, au fond, on n'a pas forcément envie d'y revenir, quoi. Et mon personnage principal, c'était ça.
Vous diriez que vous aviez une matière justement trop foisonnante, où il y avait trop de sujets qui étaient abordés et que c'était compliqué de choisir?
Bah, dans le tournage, j'ai fait déjà la... J'ai été radicale, hein. J'ai vraiment pas été filmée à côté, hein. Donc moi-même je me suis mis un voilà. Donc finalement, parce que je savais aussi qu'au montage où j'avais pas non plus de financement, il faut bien voir ça. Même si j'ai quand même monté 6 mois, hein. Mais je pense que si j'avais été moins radicale dans le tournage, j'aurais monté 1 an. Et ça, c'était pas possible, quoi, de faire ça. Donc j'ai été assez radicale au tournage. Et puis je pense que c'est comme ça aussi qu'on fait des films, hein. Il faut faire des choix. Faire un documentaire, c'est extraire du réel des choses et c'est forcément choisir. Donc au fond au montage, j'avais pas tant que ça de diversité en dehors de ce que de mon fil, quoi, enfin de l'Assemblée et de la Commission démocratie sur la place. À part effectivement les manifestations, ça là j'ai un peu dévié à un moment donné, j'ai décidé de ne pas filmer que sur la place de la République, mais d'aller aussi filmer les manifestations, à savoir la violence policière qui était vraiment un déni de démocratie, qui essayait d'empêcher l'expression et de couper la parole de façon physique même.
C'est la première fois que vous aviez ce type d'articulation-là entre le montage et le tournage dans votre travail de documentariste ?
Oui, parce qu'en général, j'ai quand même vachement écrit avant, quoi. J'ai beaucoup repéré, beaucoup écrit. Donc, quand j'arrive au montage, au fond, j'ai déjà un peu la musique du film, quoi. J'ai quelque chose. J'ai rêvé le film, parce que souvent c'est ça en fait. L'écriture, c'est rêver un film, et j'ai comme une mélodie, quoi. Et je cours après cette mélodie, que ce soit au tournage, au montage. Là, la mélodie, elle était pas tout à fait là. Un petit peu, il y avait cette émotion du début, quoi. C'était cette émotion que je voulais essayer de retrouver tout du long du travail, mais c'est vrai que on peut dire que là le montage ça a été vraiment le moment de l'écriture du film. Ça a été difficile, très difficile.
On entendait la voix de Frédéric Lordon, on le voit aussi dans votre film, mais au tout début, on voit Monique Pinson-Charlot, la sociologue, et donc l'économiste Frédéric Lordon prendre la parole. Pourquoi vous avez fait le choix de les mettre en exergue comme ça?
Oui, alors là, c'était le début des films, c'est toujours compliqué, et la fin aussi, c'est les deux moments les plus difficiles. Et ben parce que commencer les films par le début de Nuit debout, c'était assez impossible, parce qu'en fait, le début de Nuit debout, c'était pas sur la place, c'était déjà, comme je l'ai raconté, un mois avant, hein, Nuit debout est pas tombé comme ça. Et ben ça, c'est évident, je l'avais pas filmé. Donc à un moment donné, ce qui compte, c'est le début du film. Et le début du film, c'est de poser les enjeux du film. Et les enjeux, pour moi, ce qui était aussi les enjeux de Nuit debout, en tout cas de cette assemblée et de sa commission. Donc, je pense qu'il y avait Monique Pinson-Charlot qui ouvre le film, en fait, parce que je trouve qu'elle situe très bien la problématique générale, c'est-à-dire pas seulement la loi El Khomri, mais en fait l'énorme tension sociale dans laquelle on est, ou l'énorme écart qu'il y a entre les plus riches et puis les autres, quoi. Et c'est comme ça, enfin c'est dans cette ambiance-là que s'inscrit ce désir de renouvellement démocratique. Donc elle situe très bien le décor, parce que moi j'ai monté le film pour me dire pour le voir dans 20 ans, quoi. Il faut raconter ça pour dans 20 ans. Donc je trouve qu'elle situe très bien là où on en est aujourd'hui, socialement, économiquement et politiquement. Et ensuite Lordon, lui, il place en jeu, c'est-à-dire comment vous allez faire? Oui, quelque chose se passe, il le dit aussi dans le film. Et comment vous allez faire? Enfin, comment on va faire s'il n'y a pas de représentant, il n'y a pas de chef? Comment on va faire pour se construire? Voilà, c'est un peu le parrain sur le berceau de l'enfant et qui dit « Oh là là, attention, attention, le danger est prêt ». Et donc, il pose l'enjeu qui va être à la fois l'enjeu de Nuit debout et l'enjeu du film et auquel le film va répondre petit à petit, quoi.
Vous diriez que quelle place ont occupé les intellectuels dans ce mouvement?
Alors, ce que, comme tout le monde était à égalité, il y avait cette recherche d'horizontalité et puis surtout, il voulait que tout le monde s'exprime, c'est-à-dire que pas seulement ceux qui sont habitués à prendre la parole, parce que le problème, c'est ça, c'est que dans les meetings, souvent, ou dans des réunions, en général, les assemblées, etc., générales, dans les usines, ou même, c'est souvent ceux qui savent parler. Donc, c'est des syndicalistes, des professionnels de la parole, au fond, qui parlent. Là, l'objectif, c'était que des citoyens reprennent la parole, même ceux qui, quelque part, n'ont jamais parlé. Et donc, il fallait pas que la parole soit accaparée par les professionnels de la parole. Les intellectuels, ce sont quand même des professionnels de la parole, donc ils voulaient pas leur donner plus de place et ils étaient assez méfiants, parce que c'est vrai que c'est très fascinant d'entendre un intellectuel à un moment donné. En fait, on devient spectateur et ils voulaient surtout pas que les gens sur la place deviennent spectateurs. Ils voulaient que ce soit des citoyens acteurs de leur donc il fallait pas être dans la fascination d'où les durées très strictes, d'où le fait de pas donner plus la parole à ceux qui savent parler et l'attention qui était accordée à donner la parole à tous.
Oui, et que du coup, même de limiter aussi la parole des intellectuels, c'est se défaire de la séduction. Donc on reste aussi dans les formes de prise de parole. Mais en termes de contenu, ça veut dire que quelque part aussi, le contenu est forcément limité.
Voilà, c'est le cadre. C'est le cadre dont je parlais tout à l'heure, qui à la fois favorise peut-être ceux qui savent parler, et pas que, parce que par exemple, on voit à un moment donné une jeune fille qui vient s'exprimer, et puis elle dit « moi je suis pour l'autogestion ». Et puis le modérateur lui dit « vous voulez dire quelque chose de plus ?» Ben non, ça y est, elle a tout dit, quoi. En fait, donc, voilà, on n'est pas... Parler plus de 2 minutes, c'est pas forcément facile non plus. Enfin, je veux dire, par contre, ce qui est sûr, c'est que en parlant 2 minutes, ça permet à plus de gens de s'exprimer, et ça donne un cadre qui, à mon avis, est nécessaire justement pour faire advenir une parole, quelle qu'elle soit. Comme c'est pour reprendre ce que je disais au début, quand vous êtes chez le psychanalyste, vous n'avez pas 3 heures. Et c'est le fait que ce soit limité aussi qui pousse chacun à aller plus loin dans sa parole et dans son expression.
2 minutes, maximum 3 minutes, c'est le temps dans Twitter, c'est le temps d'un slogan publicitaire, c'est un peu... la mise en miettes de toute possibilité de penser à haute voix. Mais bon, il n'y a pas de solution. Donc il faut se rabattre d'une façon mélancolique sur les chronomètres. On avait commencé à la commune à tirer sur les montres, et voilà. La mesure du temps, ce temps agonique, mortel pour nous, les animaux de la race humaine, espèce spécialisée dans la parole, et de ce fait conscient de sa propre mort, de la mortalité, du temps agonique, alors le temps, la valeur, le temps qui manque. Bon, est-ce que vous connaissez une expérience dans laquelle, par la conquête, la prise, le truc, la participation à la gouvernementalité, on a changé les choses et on a échappé à ce destin? Il n'y en a pas. Mais il faut penser, ne pas penser tout le temps les fins, les moyennes. Il faut penser à respirer, à exister, à se révolter, à saboter, à interrompre, à affirmer des modes de relations diverses, des formes de vie. Et alors là, vous savez, violence, non violence, je ne dirais pas la chose évidente, que par rapport au côté exterministe de ce monde constitué, quelques escarmouches dans la rue, c'est presque rien. Les cases neuves, ils diront que c'est violent, même une tag. Alors, vous voyez.
Mariana Otero, c'est un nouvel extrait de votre film L'Assemblée qu'on écoute. Nuit debout a aussi été un moment où il y a eu comme ça des femmes et des hommes qui avaient ce type de parole, que je qualifierais d'hétérodoxe, qui a vraiment pris la parole sur la place publique. Comment vous l'avez perçu? Pourquoi avoir fait le choix, par exemple, de choisir au montage cette personne?
Ah oui, alors c'était... Alors par exemple, lui, typiquement, justement, puisqu'on parlait de ce problème de temps, voilà, à la fois, je trouve que c'était un cadre intéressant, mais effectivement, ça permet pas de déployer une pensée. Et je trouve que lui, il posait le problème de temps qui est abordé dans la séquence précédente, dans la commission Démocratie sur la place, de façon très pratique, très concrète, comment on fait, bah oui, il va bien falloir limiter, enfin voilà. Lui, il donne une dimension philosophique. Et ça, je trouve intéressant. Par exemple, là, le choix que j'ai fait, c'est celui qui parle. Au reste, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui, c'est un anarchiste, voilà, très très connu dans les milieux libertaires, qui a, voilà. Donc, mais je trouvais que là, il permettait d'ouvrir une porte et justement de, parce que moi, ce que j'aime, c'est au fond, c'est installer la complexité. Hein. Je à la fois, je dis oui, il faut un cadre, et puis en même temps, je suis comme lui, je pense aussi qu'il faut pouvoir, voilà. On est tous divisés par ces choses-là. Et Nuit debout l'était, et c'est ça qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'est qu'à la fois, il pouvait reconnaître qu'il fallait limiter, et en même temps, juste après, il y a quelqu'un qui, dans ce temps limité, va mettre en question la limitation. Et donc, dans le montage, j'ai essayé d'installer cette complexité. C'est un peu ça qui a été le moteur du choix d'une parole plutôt que d'une autre. C'était de se dire, voilà, ça résonne, ça contredit, ça vient complexifier, ça vient désorganiser, ça vient déconstruire. Enfin, voilà, c'était une façon aussi de conserver la de pas structurer à outrance ce qui se passait sur la place, parce qu'au fond, c'était toutes ces contradictions qui étaient intéressantes. Quand on écoutait, c'était ça qui était intéressant.
Et la personne qu'on vient d'entendre aussi, elle parle de la question du temps. Et elle parle de ce moment où les gens de la commune tiraient sur les horloges. Ça nous permet d'évoquer la question de la chronologie. Comment vous avez choisi, vous, de suivre vous avez fait le choix de suivre un mouvement chronologique. Pourquoi ?
Alors j'ai choisi de rester dans la chronologie parce qu'en fait c'était difficile de cette réflexion qui était en place sur cette place de la République, c'était toujours lié aussi aux événements. C'est-à-dire que par exemple quand ils réfléchissent sur le vote, ils sont obligés d'interrompre ce qu'ils avaient mis en place parce qu'il y a le 49-3 qui tombe. Quand il se met à pleuvoir, c'est pareil, ça, il faut s'obliger de ranger les choses de façon précipitée. Enfin, puis le fait qu'il y ait de moins en moins de monde, le fait que les manifestations, etc. Enfin, c'est un mouvement c'était pas des gens dans une salle en train de se dire, maintenant on a 3 mois pour écrire une constitution, quoi. Et puis on est là tranquille. Non, c'était pas ça. Donc c'était important d'inscrire cette pensée, ce travail, cette parole dans ce qui faisait les événements au jour le jour.
Vous avez choisi en fait de respecter finalement aussi le déroulé politique des événements.
Oui, parce que ça influençait directement l'Assemblée et les prises de parole. Donc c'était pas possible de faire autrement.
Il y a aussi la forme des saisons qu'on voit se déployer, puisque donc on est au début du printemps. Un printemps, il faisait un climat aussi pluvieux, et jusqu'au mois de juin, où en fait, il se met à faire beau, et on voit donc il y a quelque chose autour du temps qui est assez articulé autour dans l'Assemblée.
Oui, ça commence un peu sous la pluie. Après, il se met un petit peu à faire beau, puis après c'est la pluie pendant des mois, et puis de nouveau à la fin, au moment où... Enfin, tout le monde le sait, c'est pas une surprise, où ça s'épuise un peu, de nouveau il fait beau. Mais c'est vrai que la météo a été très insupportable, quoi. Elle a pas contribué à aider. C'est vrai que cette pluie qui était à la fois magnifique, parce que ça fait des, ça empêchait vraiment les choses de se faire. Enfin, ça empêchait les gens de venir, de s'asseoir, d'être là, de rester, de. Donc là aussi, c'était important de faire sentir ça de façon presque organique, la même manière que le fait d'installer les tentes. Tous les jours, il fallait remonter les tentes, tous les jours. Alors, ce geste de refaire chaque jour les choses, ce côté un peu Sisyphe de cette assemblée, passait aussi à la fois par la météo, par le remontage des tentes, ça participait, à mon avis, de la respiration de cette assemblée.
Moi j'ai le droit à l'image aussi.
Voilà. On a le droit, vous êtes l'État, on a le droit de filmer.
Vous pouvez mettre ça dans le visage. Un peu de respect s'il vous plaît, merci.
Ton téléphone à monsieur Pichonnier, de toute façon, dans ces cas-là.
Voilà, quand c'est comme ça, major Pichonnier, tout simplement.
Ouais, d'accord, le major Pichonnier nous avait dit par rapport au véhicule, dans la mesure où ça permutait, qu'il n'y avait pas de problème, à partir du moment où c'était des véhicules.
D'accord, moi j'ai pas de retour de la déclaration, donc je peux
D'accord,
continuer.
De toute façon, voilà, dans la déclaration, vous l'avez, elle est là.
C'est votre déclaration,
mais c'est pas le retour. C'est la seule qui fait loi.
Mais s'il n'y a pas de refus, voilà.
Il n'y a pas de refus, donc partant de là, on décharge le véhicule. Tu vas bien ?
On est qu'il y a jour déjà, c'était déjà comme ça l'autre jour, donc je l'oublie.
Ah bah oui.
Mariana Otero, c'est un nouvel extrait de L'Assemblée, votre film qu'on donne à entendre. Et on parle aussi de la question, enfin, c'est un extrait qui donne à voir la question des violences policières que vous évoquiez tout à l'heure, que vous avez filmé d'assez près. Comment ça s'est passé pour vous ?
Alors, en fait, ça a commencé, les violences policières ont commencé vraiment tout près de la place. C'est-à-dire que la première scène que j'ai vraiment filmée avec des violences policières, c'est quand ils empêchent, les CRS empêchent la sono de rentrer. Et qu'il y a la scène libérée la sono, qui était assez... qui m'avait paru très violente, d'ailleurs. Et puis qui en fait, après, au bout de 3 mois, vu les manifestations, m'a paru tout à fait... presque sympathique, quoi, à côté du reste, qui était vraiment terrible. Et donc là, c'est là que j'ai commencé à me dire que c'était important de sortir de la place, surtout que j'allais aux manifestations sans caméra au début. Puis quand j'ai vraiment commencé à voir les violences policières, je me suis dit il faut les montrer, quoi. Ça peut pas être ça peut pas rester hors champ, puisque j'ai laissé beaucoup de choses hors champ, mais ça me semblait vraiment être important, parce que c'était la négation totale de ce qui était en train de se faire sur cette place, quoi. L'envers absolu de, et que la violence était très très forte, quoi. Moi, sincèrement, j'avais peur, quoi. J'avais peur en allant aux manifestations. À la fin, je pense que j'ai vu d'ailleurs plein de gens dans les avant-premières qui m'ont dit qu'ils ont arrêté d'aller aux manifestations parce qu'ils avaient peur. C'est quand même grave. C'est-à-dire que, effectivement, il y avait moins de monde aux manifestations, ce qui a contribué d'ailleurs aussi à affaiblir le mouvement Nuit Debout. Mais les gens étaient moins nombreux parce qu'ils avaient peur, quoi. C'est vraiment. Et moi, j'y allais la boule au ventre en me disant, oh là là, est-ce que aujourd'hui je vais revenir entière, quoi. J'ai vu des choses terribles, là, quelqu'un qui avait une grenade comme ça qui était resté coincé dans le dos, des blessures, enfin, il y a quelqu'un qui a perdu un œil. Le rapport d'Amnesty International a été extrêmement dur vis-à-vis de la police, des ordres qu'on leur a donnés, hein, parce qu'ils obéissent aux ordres. Et voilà, mais nous, avec mon ingénieur du son, on se faisait c'était vraiment, on se disait il faut le filmer, il faut le montrer, parce que et dans les plans que j'ai privilégiés dans le film, c'est ces plans où en fait on voit que après un gaz lacrymogène ou les grenades de désencerclement, au fond on peut plus parler, quoi. C'est le silence, c'est même un silence assourdissant, quoi. Et ça montre vraiment, je n'ai pas mis énormément de scènes comme ça, mais ça pour moi, ça montre vraiment à quel point le but de la violence policière, c'était vraiment de faire arrêter cette expression politique.
Et on voit aussi un moment dans un plan de coupe, on voit que la place aussi est cernée par les CRS. Et que les gens, on fouille les sacs des gens avant qu'ils rentrent sur la place. Ce qui nous rappelle aussi que Nuit Debout a eu lieu en plein état d'urgence. Qui venait d'être décrété quelque chose comme 4 mois avant. Comment vous l'avez ressenti, ça aussi, la question de cette libération de la parole à l'intérieur d'un espace qui était avec une forte présence policière?
Oui, c'était, il y avait un contraste très fort de alors l'état d'urgence était je crois qu'il était un prétexte pour voilà, parce qu'il y a plein de choses qui ont eu lieu, plein de fêtes, plein de, où ça a pas du tout posé de problème, où on fouillait pas les gens avec autant de, voilà, là il y avait des fouilles mais systématiques, absolument inutiles, humiliantes, enfin il y a eu la dernière manifestation où ils ont faisaient enlever les foulards, il y avait des montagnes de foulards comme ça pour que les gens puissent pas se protéger des gaz lacrymogènes, enfin c'était voilà, donc c'était, enfin, je trouvais que c'était très fort visuellement, parce que ça racontait très bien la pression que subissaient tous ces gens qui étaient sur la place.
L'autre moment où vous sortez, c'est le moment où vous allez à l'Assemblée, pendant le moment où le 49-3 est décidé, enfin passe à l'Assemblée. Et il y a un parallèle là, du coup, qui évident, qui se construit entre l'Assemblée politique qui a lieu place de la République et l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un parallèle qui vous est apparu immédiatement ?
Oui, il y avait quelque chose. Alors, le truc, c'est que je savais pas qu'ils allaient vraiment se réunir, qu'ils allaient y arriver, hein, parce que c'était pas évident. La première fois, ils ont été rejetés très violemment. C'est la première manifestation, je trouve, très violente. Enfin, il y avait eu celle du 1er mai aussi. qui avait été très violente, où là, voilà, mais c'est... oui, mais enfin, quand je les ai vus se réunir devant, je me suis dit, c'est extraordinaire, quoi. Il y a quelque chose qui est... voilà, quand ils disent les voyous, enfin, CRS, retournez-vous, les voyous sont derrière vous, c'est cette façon de désigner une assemblée qui, même si évidemment elle est légale, hein, personne ne va remettre en question la légalité de cette assemblée nationale, mais est-elle vraiment légitime, quoi? C'est ça la question qui est posée. Est-elle, et dans la mesure en plus avec le 49-3 où les députés n'ont même plus la parole, où en est notre démocratie, quoi? C'est cette mise en question de la démocratie par cette assemblée populaire face à une assemblée nationale qui ne joue plus son rôle. Et qui ne représente plus grand monde, ça évidemment, je trouvais ça très fort. Oui.
Le problème, c'est le problème de la dynamique même d'un mouvement. Est-ce qu'un mouvement qu'on peut dire spontané, avec beaucoup de guillemets, peut se transformer en mouvement autonome? Parce que c'est ça qui est fondamental aujourd'hui, quoi. Et effectivement, se transformer en un mouvement qui est autonome, ça veut dire transformer en un mouvement qui apprend, au fond, petit à petit, à savoir ce qu'il veut, à savoir ce qu'il veut et à se donner les moyens de ce qu'il veut. Et bon, c'est pour ça que je pense que c'est effectivement ce qui a toujours été le problème un petit peu à la fin des occupations, c'est bon, bah alors on rentre chez soi, ou bien alors bon, bah on fait un nouveau parti gauche de la gauche, et bon, les partis gauche de la gauche, il y en a un peu partout, bon, on en connaît, il y en a y compris chez nous, je dirais que, à mon avis, c'est pas le bon, effectivement, c'est un peu aussi comme un aveu de disons de défaite, quoi, c'est-à-dire que la question, c'est oui, est-ce que un mouvement sans leader, est-ce que un mouvement de gens qui veulent d'abord être ensemble des égaux, bon, est capable de creuser sa propre volonté en se transformant justement, non pas en une institution au sens d'un parti qui va se présenter aux élections, mais en un mouvement autonome qui impose au fond, comme ses propres débats, ses propres forums, ses propres objectifs et ses propres modes d'action. Alors bon, tout ça est abstrait, bien sûr.
On entend la parole de Jacques Rancière, le philosophe, qui parle donc de ce grand débat entre la spontanéité et l'organisation, qui a été aussi un débat qui était au cœur de l'événement Nuit Debout. C'est l'idée aussi qu'il y a un mouvement qui parfois ne se solidifie pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti face à ce mouvement et que vous avez voulu montrer dans votre documentaire?
Oui, bah oui, j'ai ressenti ça, effectivement. Enfin, ce qui le décrit très bien, hein, c'est comment devenir un mouvement autonome, enfin, avec qui sait où il va, enfin, qui sait ce qu'il veut. Enfin, il reprend un peu quelque part ce que dit Lornon au début, c'est comment ça peut se constituer. C'est vrai que c'était c'était la question, moi aussi, qui m'habitait, et qui, je pense, habitait tous ceux qui étaient dans la commission démocratie sur la place, et puis plein d'autres sur la place. C'était comment on va réussir à transformer ça. Mais au fond, ils avaient envie et pas très envie, quoi. Ça a toujours été ce double mouvement, et il y avait ceux qui critiquaient l'organisation, qui disaient oui, mais en organisant, vous empêchez les gens de s'exprimer. Et on voit bien, hein, dans certains moments dans le film, c'est vous empêchez les gens de prendre la parole, alors c'est ça qui compte. Et puis ceux qui disaient non, mais attendez, là, on n'avance plus, on n'avance pas, si on n'organise pas plus, c'est pas possible, on va s'épuiser, ça va rien donner. Enfin, c'était un peu la discussion. Moi, j'ai conclu, pour moi, il fallait abandonner. Je pense que la force de Nuit Debout, la force de cette assemblée, c'est que c'était justement de pas décider, quoi, de pas essayer de décider, et juste d'être un endroit de parole. Enfin, c'est comme ça que j'ai monté aussi le film, hein, c'est en allant vers ça. C'est un outil pour réfléchir, pour après aller faire autre chose, de manière différente. Et c'est, je pense, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui étaient sur cette place se sont politisés en étant sur cette place. Beaucoup de jeunes, entre autres. Toute une génération, je crois, s'est formée politiquement parce qu'ils étaient dégoûtés de la politique traditionnelle. Et là, ils ont vu que la politique, ça les regardait, mais justement de façon différente, en faisant différemment. Et s'il y a eu beaucoup d'abstentionnistes, c'est pas du tout parce que ils s'intéressaient pas aux politiques. C'est au contraire parce qu'ils s'y intéressaient très fortement et que le vote leur semblait tout à fait mineur par rapport à ce qu'ils avaient envie de faire en politique. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé. Il y a des gens qui se sont formés, qui après ont été constitués d'autres réseaux. Ils ont pu rentrer à la France Insoumise, se rapprocher des anarchistes, se radicaliser, ou tout simplement faire des réseaux qui se connectent pour faire une action, je sais pas, pour aider les migrants, ou là par exemple Copcycle, pour qui est issu de la commission économique, qui est une coopérative alternative à Deliveroo, c'est-à-dire ça sera une coopérative de livreurs. Voilà, enfin il y a des tas de... Je pense que Nuit Debout, ça a été le ferment de quelque chose qui s'est développé ailleurs. et que en ce sens-là, c'est efficace. Son objet n'était pas forcément de s'autonomiser, si on reprend les termes de Jacques Rancière.
Jacques Rancière parle aussi dans l'archive qu'on vient d'entendre, de la question de l'absence de leader et donc de la spontanéité comme absence de leader. Sauf que vous, dans la traduction documentaire que vous faites de Nuit Debout, il y a quand même un certain nombre de figures, comme vous êtes donc concentré sur la question de sur la commission démocratie, il y a des figures qui reviennent, des personnages récurrents. Est-ce que vous avez le sentiment de créer comme ça des personnages ?
Non, j'ai essayé de pas créer des personnages parce que j'avais l'impression que des personnages ce serait vraiment trop à l'envers du mode d'être qu'il y avait à Nuit Debout. Donc très vite, je me suis dit de toute façon, il y aura pas de personnages, mais plutôt des gens qui, oui, des figures qui reviennent parce qu'ils sont là plus souvent que les autres et que voilà, par exemple, il y a une jeune fille qu'on revoit 2-3 fois et qui a une phrase quand même assez forte à un moment donné, donc on la reconnaît. Il y en a un autre avec une écharpe rouge, très qu'on reconnaît forcément d'une commission à l'autre. Faut dire qu'il était là très souvent. Donc voilà, ceux-là, il y en a un abonné aussi. Enfin voilà, il y en a quelques-uns comme ça, dont on connaît pas forcément les prénoms, hein. Mais je dirais pas qu'ils accèdent au statut de personnage. Pour moi, un personnage dans un film, c'est des gens à qui il arrive quelque chose. Et, vraiment, enfin, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, dans Entre nos mains, qui est un film que j'ai tourné dans une entreprise qui essaie de se transformer en coopérative, on peut dire qu'aux ouvrières, il leur arrive quelque chose, on est vraiment avec elles dans leur transformation intime. Là, ça circule, quoi, il leur arrive quelque chose collectivement. Mais on peut pas dire qu'il leur arrive, on devine bien qu'il arrive quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ça qui s'est passé sur cette place, c'est qu'il est arrivé quelque chose à chacune des personnes qui est arrivée là, mais c'est en étant dans ce collectif, quoi. Et je l'ai traité comme ça, quoi. Donc, on peut pas dire vraiment pour moi que ce sont des personnages. Les personnages, c'est la parole, c'est l'écoute, c'est la place. Mais c'est pas proprement parler des gens, quoi.
Est-ce que vous l'avez montré, ce film, à des militants, des anciens militants de Nuit Debout?
Ah oui, parce que j'ai déjà eu des avant-premières. Donc, le retour est très divers. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que, il y a les militants qui s'y retrouvent complètement, même s'ils n'étaient pas dans la commission démocratie sur la place ou dans d'autres villes même, hein, parce qu'il y a eu évidemment des mouvements Nuit Debout un peu partout. Même si c'était pas leur objet, c'était pas la démocratie justement, puisque moi quand même j'ai choisi la commission qui avait pour objet la démocratie, donc même des gens qui étaient dans une commission qui avait pour objet l'action, la lutte, etc. Retrouver dans le questionnement des choses qui les concernaient, c'est-à-dire que, par exemple, des gens de la commission action, à un moment donné, oui, on agit, on fait ci, on fait ça, mais et après, comment on fait ensemble? Qu'est-ce que ça donne, toutes ces actions? Ça paraît plus efficace, parce que c'est des actions, mais parler, c'est aussi agir, parce que justement, on reprend le politique en main, etc. Les actions, c'est pas tellement plus agir que parler, puisque s'il y en a une, plus une, plus une, plus une, et ça fait quoi tous ces plus un? Ça fait pas forcément quelque chose de cohérent qui va être efficace. Donc ils ont aussi, ils se sont posé la question, la convergence des luttes, cette fameuse convergence des luttes, est-ce que ça n'a pas été plutôt une diffraction des luttes?
Dans l'idée aussi de créer un mouvement autonome, il y avait dans Nuit Debout l'idée de s'auto-documenter, enfin, c'est-à-dire documenter nous-mêmes notre propre présence sur la place. Il y avait notamment, je pense, des initiatives comme Radio Debout, des choses comme ça. Vous, comment vous avez trouvé votre place parmi au sein de cette tentative d'autonomisation de la documentation du mouvement?
Oui, il y avait Radio Debout, il y avait Télé Debout, il y avait Documentariste Debout, il y avait des reporters, Gazette Debout. Enfin, c'est vrai qu'il y avait tout un tas de... Il y avait les périscopeurs, il y en avait une quantité absolument incroyable. Ça, c'était... Alors, vis-à-vis des autres caméras, c'était un peu compliqué, parce que des fois, on n'avait plus de place, surtout au début. Ça ressemblait un peu à un cauchemar que moi, j'avais fait un jour. J'arrive sur un tournage, il y a plein de caméras. Bah, c'était un peu ça, c'était Place de la République. Je ne savais pas que j'allais le vivre. Et voilà, donc, Alors, ça, c'était un peu compliqué. Après, les autres, bon, c'était un peu différent. Radio Debout, bon, j'ai trouvé ça extraordinaire. Radio Debout, c'était génial, quoi. Mais c'est vraiment un autre support, un autre média qui était en parallèle, enfin, en synchrone, quoi, complètement. Moi, j'avais dans l'idée de construire quelque chose, quand même, d'une heure et demie à partir de la profusion. Donc, c'était forcément un peu une autre démarche que même les périscopeurs qui ont filmé des heures et des heures et des heures. Et je pense qu'il y a une quantité d'images qui a été tournée, là, absolument incroyable, quoi. Je ne sais pas ce qui va devenir de toutes ces images, hein, parce qu'au fond, il y a eu un reportage qui est passé sur France 5 et puis mon film. Mais sûrement que peut-être plus tard, il va y avoir des montages qui vont être faits. Mais il y a eu énormément de choses documentées, effectivement.
Nous allons faire usage de la force.
Mariana Otero, c'est un extrait de La Commune, le long métrage de Peter Watkins. Est-ce que vous avez eu le sentiment avec l'Assemblée de vous inscrire dans une tradition de la parole politique filmée, comme c'est le cas par exemple dans La Commune ?
Oui, un peu, oui. Moi, je pensais, je pensais beaucoup à La Commune. Ça, j'ai beaucoup pensé à La Commune. J'ai beaucoup pensé à la Révolution française. J'ai beaucoup pensé aux sections pendant la Révolution française. J'ai beaucoup pensé à Après, je sais pas si je m'inscrivais vraiment par rapport à ces films, mais en tout cas, je pensais à ces. Pour moi, il y avait une force historique qui était, même si c'était pas une révolution, hein, mais par rapport à ces moments où le peuple s'est réemparé comme ça de la parole, sans aller à nuit debout à reprendre le pouvoir, mais je pensais, j'avais ça toujours en tête, oui.
On voit l'historien Loïc Blondiot à un moment dans le film. Dans votre film, et qui parle de la question de l'agora, et en même temps qui parle de la Révolution française, un historien de la Révolution française. Est-ce que vous avez aussi le sentiment de vous inscrire quelque part dans une histoire du mouvement révolutionnaire ?
Oui, enfin, alors lui, c'est plutôt un historien de la démocratie, c'est vraiment là-dessus qu'il travaille sur... Oui, j'avais toujours ça en arrière-plan. Enfin, quand je dis que j'ai essayé justement de monter le film un peu comme dans 20 ans, enfin, en me disant, voilà, comment on regardera ça dans 20 ans, c'était l'idée en 2016, dans quel état on était ? Enfin, dans quel état était la démocratie ? Dans un piètre état, visiblement, par rapport justement à toutes ces violences policières, le fait qu'on empêche les manifestations, qu'on empêche les gens de parler, qu'on empêche les gens de filmer, qu'on empêche les journalistes de s'exprimer, enfin, qu'il y ait le 49-3, enfin, on est dans une vraie crise. Et en même temps, il y a une vraie soif de démocratie, une tentative comme ça de réinvention, quelque chose qui est très fortement exprimé, très fortement pensé, pas résolu, on en est très loin. Et moi, je me disais, est-ce que c'est la fin de quelque chose ou au contraire le début, quoi. Et le film, il oscille, hein, et les réactions des spectateurs, oui, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Les réactions des spectateurs, elles oscillent entre l'enthousiasme et puis, ou le découragement, hein, parce que c'est un peu les deux. Est-ce que c'est la fin ou c'est le début et de quelque chose d'autre, quoi.
Merci. Mariana Otero, votre film L'Assemblée sort mercredi en salle. À l'Espace Saint-Michel, il y aura toute une série de débats autour de projections de votre documentaire à partir du mercredi 18 octobre avec plusieurs intellectuels comme Monique et Michel Pinson-Charlot, Frédéric Lordon et Loïc Blondiot dont on parlait. Quel poème ?
Du mouvement et de l'immobilité de Douve. Ou bien, Éluard, j'ai la parole facile et c'est heureux.
Écoutez Par les temps qui courent, rendez-vous sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast sur la page de l'émission. Demain, nous recevrons Marie Cosnet pour sa traduction des Métamorphoses d'Ovide.
Martinique.